La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je me présente, je suis Florence Vanquali, pasteur dans une église protestante, l'église évangélique libre, qui se réunit à Toulouse, dans le quartier de la gare Matabiau. Notre dénomination est membre de la Fédération protestante de France et du Conseil national des évangéliques en France. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions sur la foi. En tant que chrétien, la foi est au cœur de notre vie. Au-delà des croyances, la foi joue un rôle essentiel puisqu'elle nous permet l'accès au salut. La Bible affirme ainsi que nous sommes sauvés à cause de l'amour de Dieu par sa grâce et que nous avons simplement à croire que Jésus a fait le nécessaire dans sa mort et sa résurrection pour que notre passé ne soit plus un obstacle entre Dieu et nous. La foi est donc au cœur de notre rencontre avec Dieu dès le début, mais aussi tout au long de la vie du croyant dans sa relation avec Dieu. Elle est au fondement de la conception chrétienne de la relation avec Dieu. Mais comment nous représentons-nous cette foi? Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui nous fait dire de quelqu'un « Ah, lui, elle, quelle foi, quel croyant !» À l'inverse, qu'est-ce qui nous paraît incompatible avec la foi? Je vous invite à nous tourner vers la rencontre entre Dieu et un grand croyant s'il en est, Abraham, ou plutôt sa femme, Sarah. Je vais lire le récit de toute cette rencontre dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 1 à 15, mais je me concentrerai plutôt sur la fin du texte. Donc je lis Genèse 18, 1 à 15. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée, quand soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends trois grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Les visiteurs lui demandèrent « Où est ta femme, Sarah ?»« Dans la tente, » répondit-il. L'un des visiteurs déclara « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme, Sarah, aura un fils. » Or Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc « Maintenant, je suis usée, et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant. » Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, » dit-elle. « Si, » répliqua le Seigneur, « tu as ri. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Permets-nous de l'entendre, de t'entendre à travers elle. Amen. Une des choses que j'aime tant avec la Bible, notamment dans sa première partie, l'Ancien Testament, c'est que les personnes que nous y rencontrons sont bien humaines, avec leur grandeur et leur fragilité. Ce ne sont pas des héros lisses et sans faille. Dans ce texte, c'est Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham sans qu'Abraham ne le sache. Il ressemble à un homme et Abraham va deviner peu à peu que ces trois personnages sont bien plus qu'ils n'y paraissent. Abraham, en accueillant ses visiteurs, se laisse déranger et ainsi il montre sa grandeur. Il déploie une générosité impressionnante, tout orientale, en faisant préparer 21 kilos de farine et un veau gras pour 4. Il y a de quoi faire. Sans le savoir, Abraham se comporte en fait de façon appropriée devant Dieu. Il lui offre le meilleur, se prosterne devant lui, le considère comme une bénédiction. Mais même si l'hospitalité d'Abraham est franchement inspirante, j'aimerais me concentrer sur Sarah. La vraie discussion surgit quand le repas est terminé, vous savez, comme on aborde souvent les sujets sensibles au café. Dieu va rappeler sa promesse de donner un fils à Abraham et Sarah. Cette promesse, elle remonte à presque 25 ans plus tôt, quand Dieu avait promis à Abraham, qui était déjà d'âge mûr, mais sans enfant, quand Dieu donc lui avait promis qu'un fils naîtrait de lui, puis un peuple au destin particulier. Mais depuis donc presque 25 ans, rien. Abraham et Sarah sont toujours sans enfant. Sarah a fini par prendre les choses en main et elle a eu recours à un genre de mère porteuse, mais Dieu n'a pas reconnu cet enfant comme le fils qu'il avait promis. Dans le chapitre précédent, au chapitre 17, Dieu réaffirme son alliance avec Abraham et son engagement à faire naître en Sarah un héritier. Mais ici, au chapitre 18, Dieu prend la peine de contacter Sarah elle-même, la future mère. Alors il le fait en respectant les codes sociaux, hein. Il s'adresse à cette femme mariée par l'intermédiaire de son mari, mais c'est bien à elle qu'il veut rappeler sa promesse. Et devant cette promesse, Sarah rit. Abraham aussi avait ri, hein. Il n'y a pas qu'elle. Mais c'est le rire de Sarah qui va lancer un échange très intéressant avec Dieu. Celui qui nous raconte l'histoire prend la peine de nous rappeler la situation. Non seulement Sarah est stérile, mais en plus maintenant, elle est ménopausée. Sarah ne peut plus enfanter. Le texte porte un regard réaliste sur ce que Sarah vit et on sent tout son découragement. Pensez-y, depuis des années, l'absence d'enfant. L'espoir, déçu mois après mois. Et ses premiers symptômes de la ménopause, ses bouffées de chaleur, ses changements dans son corps, comme autant de signes qui disent que si Abraham a un fils, il ne sera pas d'elle. Le rire de Sarah est sûrement un rire jaune. Non pas par mépris de Dieu, hein, mais par manque d'espérance. Elle n'a simplement plus la force d'y croire. Sarah subit de plein fouet le drame de la stérilité et de l'âge. Elle se sent vieille, sans avenir, comme si plus rien de bon ne pouvait lui arriver. Et on le sait, à partir d'un certain âge, les facultés diminuent, l'énergie, les forces. Et j'ai souvent entendu « À quoi je sers maintenant ? Je suis bon à rien, inutile. Je n'ai plus rien à donner ou de toute façon, ce que je pourrais offrir, personne n'en veut. » À l'époque comme aujourd'hui, en particulier dans une société qui adule la jeunesse, les difficultés de la vieillesse sont perçues encore plus comme un fardeau humiliant dont on aimerait se débarrasser. Cette description de Sarah nous montre qu'il y a une place devant Dieu pour poser ce qui nous paraît insurmontable, que ce soit la stérilité, la maladie, l'âge, le deuil, toute difficulté, il y a une place pour le réalisme. Oui, nous pouvons nous tenir devant Dieu dans la réalité de ce que nous sommes, car il connaît cette réalité et nous n'avons pas à faire semblant. Ce que nous vivons, la réalité de ce que nous vivons peut parfois nous faire douter, comme c'est le cas chez Sarah. mais chez d'autres aussi. Voyez par exemple Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange lui annonce à elle, une jeune femme vierge à peine fiancée, qu'elle va être enceinte, elle répond avec une question. Mais comment ? Comment cela se fera-t-il ? Je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme, dit-elle. Et c'est lorsque l'ange lui explique succinctement que c'est Dieu qui va faire le travail que Marie se lance dans l'aventure. Dans notre vie avec Dieu, nous aurons bien du mal à échapper aux doutes. Mais devant les difficultés, certains choisissent le déni. Mais non, tout va bien. Ils avancent en marche forcée, grand sourire, réponse à tout. Mais la peine est réelle. Et souvent, à force d'avancer ainsi, ils finissent par s'écrouler. Je me souviens d'une femme mûre, croyante depuis longtemps, très engagée dans une église, qui m'avait dit « J'ai l'impression de me poser des questions que personne ne se pose. » Bon, d'accord, j'étais jeune, mais ça m'a laissé un petit peu sceptique. Alors je lui ai demandé ce que c'était, ces fameuses questions. Et elle m'a répondu « Oh, ben, tu sais, la question du mal dans le monde, de la violence, du handicap. Qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à l'homosexualité ? Etc, etc. » Et là, je me suis dit « Elle n'est sûrement pas la seule à être interpellée par ces situations. » Pourtant, au culte, à l'église, nous présentons un visage bien respectable. Et quand les questions difficiles se posent, nous répondons presque du tac au tac avec la bonne proposition. Dans notre vie, nous aurons du mal à échapper au doute. Le doute ne naît pas forcément de ce que nous vivons, comme Sarah par exemple, mais ça peut venir aussi de ce que nous voyons à l'extérieur. Il y a des situations perturbantes auxquelles nous faisons face. Et devant ces situations, certains choisissent le déni, tandis que d'autres, à l'inverse, se laissent peut-être submerger par les difficultés de leur situation et finissent par perdre espoir. Ce qu'ils vivent paraît tellement insurmontable que même s'ils ne l'avouent pas forcément, ils finissent par penser que Dieu, même Dieu, ne peut rien y faire. Malheureusement, dans les deux cas, chez le super croyant que tout le monde admire ou le super pessimiste, dans les deux cas, Dieu n'est pas invité dans la situation. Imaginez une pièce, la pièce de nos difficultés, la pièce de nos doutes. Imaginez que cette pièce, on en ait fermé la porte à double tour. Les uns s'efforcent d'ignorer cette porte. Ils vont même repeindre la porte de la même couleur que le couloir, comme ça on est sûr de ne pas la voir. Mais les autres ont accroché sur la porte un grand panneau, interdit d'entrer, comme les ados font parfois. C'est comme une alternative. Soit on enterre ses doutes, et notre relation avec Dieu perd de son authenticité, soit on laisse les doutes nous enterrer dans la peur et l'amertume, et la relation avec Dieu devient impartielle. Il y aura des sujets qu'on exclura de la prière, de la conversation avec Dieu. Vous savez, comme ces sujets tabous qui peuvent rendre certains repas de famille gênants. Mais il y a une troisième voie. Simplement, confier à Dieu nos doutes. Poser nos questions comme Marie. Nos doutes peuvent devenir des occasions de parler avec Dieu. Regardez les psaumes. Les lamentations de Jérémie, le livre de Job. Devant la violence de ce qu'ils vivaient, ces croyants-là ont osé interpeller Dieu et nous pouvons suivre leur exemple. Ils ont ouvert ces portes verrouillées pour inviter Dieu dans leur situation et Dieu leur a répondu. Dieu n'a pas forcément tout résolu, hein, mais il s'est montré et il a répondu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de qui il faut se cacher. Sarah, effrayée à la fin, nie son rire, elle nie ses doutes. Mais Dieu termine la conversation en l'invitant à assumer ses questionnements, sûrement pour mieux les lui confier. Il y a des doutes qui nous coupent de Dieu, mais il y a aussi des doutes qui vont approfondir notre foi. Tout dépend si on les laisse nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu. Si vous me permettez un témoignage personnel, j'ai vécu il y a quelques années une grosse période de doute. Suite à une crise dans ma vie personnelle, j'ai senti toute ma foi chavirer. Et dans un moment clé, je me souviens avoir pris Dieu à partie en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Comment c'est possible ? Est-ce que vraiment tu es bon ?» Dieu n'a pas répondu tout de suite, mais dans les semaines qui ont suivi, l'exemple du Christ en croix m'a rejointe. Des paroles bibliques me sont revenues en mémoire avec une fermeté qui avait tout d'une réponse divine. Cette période m'a sérieusement ébranlée, c'est vrai, mais j'y ai reçu des réponses de Dieu que jamais je n'aurais reçues autrement, et surtout pas si j'avais baissé les bras, ou si j'avais fait taire mes doutes avec des réponses bien sages, évangéliquement correctes. Depuis, je suis encore plus convaincue que la foi ne consiste pas à éviter ou à faire taire nos doutes, mais à les surmonter en les confiant à Dieu, dans la réalité de ce que nous vivons. Lui, il connaît nos situations. Nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Revenons sur la surprise de Dieu devant la réaction de Sarah. Ce n'est pas la souffrance de Sarah qui étonne Dieu. C'est qu'elle se ferme à lui, à sa puissance, à sa présence. Alors il répond, avec quelle douceur et quelle patience. Il répond en rappelant, qui est Dieu ? Pourquoi la vieillesse serait-elle un problème ? Lui qui a créé le monde, ne peut-il pas rendre Sarah féconde ? Dieu ne décrit pas la méthode qu'il va employer pour surmonter les problèmes, il rappelle juste qui il est, non pas quoi, mais qui. Nous souvent nous restons bloqués sur les quoi, les comment, le possible, l'expérience passée, etc. Mais lui, il rappelle qui. Et il ne s'agit plus de croire que ceci ou cela est possible en soi. Non, en soi, une femme ménopausée ne peut pas enfanter. En soi, un mort ne peut pas revivre, ni un coupable être déclaré innocent. Mais il s'agit de faire confiance à Dieu, de croire en lui. C'est lui le créateur de la vie, qui peut transformer ces situations. Y a-t-il quelque chose dont le Seigneur soit incapable? Les miracles sont difficiles à croire et à imaginer, c'est le principe. Mais Dieu nous demande de lever les yeux vers lui, de croire que lui est capable de regarder ce qui ne va pas et de proposer une réponse. Dieu n'apportera pas forcément une solution magique et spectaculaire, mais il donnera toujours un chemin au milieu de l'impasse, un moyen d'avancer. Parfois, il donne un vrai miracle. Et Sarah, effectivement, un an plus tard, aura un fils dans les bras, appelé Isaac, accueilli par des rires d'étonnement. Comment ? Elle ? Elle est devenue mère ? Mais ce n'est pas toujours un miracle que Dieu nous donne. Parfois, c'est simplement reconsidérer ce qu'on vit, y trouver un sens. Et entre ces deux extrêmes, entre le changement de situation et le changement de regard, eh bien Dieu se réserve toute la palette des possibles. Quand nous regardons notre vie, notre entourage, notre monde, il y a parfois, souvent, de quoi douter. Mais si nous doutons, ne laissons pas ces doutes nous éloigner de Dieu. Qu'au contraire, ces doutes nous rapprochent de lui. Nous n'avons pas à faire semblant devant lui, à faire les gros bras. Nous avons été sauvés par grâce, sans mérite ni masque de bienséance. Continuons de vivre dans cette grâce, sans compter sur nos mérites ni nos masques de bienséance. Osons parler avec Dieu, c'est ça la foi. Osons lui confier ce que nous vivons, ce que nous sommes, en vérité. Mais osons aussi parler en Église, entre nous, de ce qui nous ébranle. Parce que c'est quand nous sommes honnêtes sur ce que nous vivons sur la vérité de nos difficultés, parfois de nos doutes, de nos questions. C'est quand nous sommes honnêtes que nous pouvons accueillir la réponse de Dieu, une réponse qui nous conduit à une vie plus pleine et à une joie plus grande.
God.